Eh bien, merci d'être venus si nombreux. Bon, je signale tout de suite que pour ceux qui viennent peut-être du côté de Terrasson ou de l'Arche, que je referai cette conférence à Saint-Germain-de-l'Arche pour les amis du COS dans l'année, quoi, probablement. Hein. Donc, si vous ne vous sentez pas suffisamment costaud pour tenir pendant cette heure, ça vous sera une deuxième possibilité. En tout cas, merci d'être venu. Notre sujet, donc, aujourd'hui, c'est les frontières de la vicomté de Turenne. La vicomté de Turenne, c'est quelque chose qui a perduré depuis à peu près l'an 1000 jusqu'à la vente de la vicomté en 1738, et c'est donc quelque chose qui a une certaine durabilité et une certaine force. Et je me suis toujours demandé pourquoi ce pays, cette petite région, à la frontière de trois provinces, c'est-à-dire à la frontière du Périgord, du Limousin et du Quercy, dans une situation tout à fait particulière, avait pu durer aussi longtemps. Et aussi, quelle était son origine. Alors, c'est ce que nous allons voir. Et je vais commencer par une première partie qui concerne, si l'on peut dire, sa très lointaine origine, c'est-à-dire l'époque où les Romains ont livré leur dernière bataille aux Gaulois, au Puy d'Issolu, ou à Uxelles du Nord en tout cas, en 51 avant Jésus-Christ. Nous allons commencer donc dans cette première partie par parler de ça. Dans une seconde partie, nous parlerons du glissement qui s'est produit depuis ce puits dissolu jusqu'à Turenne pour former la vicomté. Et nous verrons qu'une nouvelle frontière s'établit, qui est alors la forêt de Turenne, qui est une toute autre frontière. Alors, dans l'origine de la vicomté, il y a plusieurs choses très importantes. Il y a, pour commencer, la grande route qui va de Paris à Toulouse, qui passe par Brive, qui était le seul pont existant sur la Corrèze, qui passe ensuite par la forêt de Turenne, à travers tout ce paysage forestier, et qui ensuite se dirige vers la Dordogne, en passant soit par Martel, qui bien sûr n'a existé que très tard, et rejoignant la Dordogne pour ensuite aller vers Gramat, et puis vers Cahors et Toulouse. C'est l'axe Paris-Toulouse. Un second axe qui concerne cette vicomté, c'est un axe est-ouest, et non pas nord-sud, et cet axe donc nord-ouest, c'est de l'Atlantique à l'Auvergne, en passant par la vallée de la Dordogne. Et c'est très nettement un axe commercial très important qui a duré pendant des siècles et qui a commencé essentiellement avec le commerce du sel. La vicomté donc étant sur trois diocèses, ce qui est une particularité tout à fait spéciale. Et comme je vous le disais, on va s'apercevoir qu'elle se déplace vers le nord. Oui. Alors ça, c'est une carte du XVIIe siècle de la vicomté, à une époque où, visiblement, on ne la décrit que par ses fleuves. Alors vous avez au nord la Corrèze, bien sûr, et qui rejoint la Vézère. Et puis vous avez surtout l'énorme Dordogne, qui est dans la partie sud. On voit aussi qu'elle est décrite plutôt par ses affluents, les affluents de ces deux rivières, dont la ligne de crête passe à peu près au-dessus de Turenne, vous voyez.
Oula.
Un petit peu au-dessus de Turenne, voilà, avec les rivières qui descendent vers la Dordogne, et puis celles qui descendent vers la Corrèze, mais ça n'est même pas indiqué. D'autre part, il y a bien marqué Périgord, il y a bien marqué probablement Limousin ou Quercy, mais il n'y a pas la frontière entre les trois régions. Autrement dit, Turenne, qui se trouve au centre, est simplement considérée comme une capitale, mais sans qu'on sache quelles sont les limites, voyez, de cette vicomté. Et puis on peut constater que les armes qui sont dessinées sont les armes des tout premiers vicomtes de Turenne, ceux de la famille des Turenne ou Combourg, et non pas ceux de la famille des Latour d'Auvergne, qui étaient les seigneurs vicomtes de Turenne à l'époque de la carte. Ça veut dire, si vous voulez, qu'on essaye un peu d'effacer leur présence. Oui. Alors là, alors c'est un dessin, hein, c'est pas une carte bien faite. Mais disons que vous avez ici les principales régions de la vicomté. Alors les principales régions de la vicomté, elles se situent bien sûr autour de Turenne. Et ce que vous avez en vert, c'est ce qu'on peut appeler le noyau dur de la vicomté. Alors ce noyau dur de la vicomté, au temps de Charlemagne, il s'appelle le Tornès. D'autre part, la rivière ou le ruisseau qui passe à côté de Turenne s'appelle la Tourmente. Et Turenne, enfin, s'appelle Turenne, donc un nom qui évoque aussi ce terme un petit peu générique de Tornès. La vicairie de Tornès, pour Charlemagne, c'est toute la région, donc, qui se trouve en Limousin, jusqu'aux frontières de Bordeaux. Pas que je touche, hein. Jusqu'aux frontières, donc, de Brive, pardon, et dans cette zone. Ce que les gens du Quercy appellent le Tornès, c'est un archiprêtré. Un archiprêtré, c'est une division religieuse, et non pas une division administrative, comme la vicairie. Et ce qu'ils appellent, eux, les Cassinois, l'archiprêtré du Tornès, se trouve donc avec, pour siège de l'archiprêtré Gignac, un deuxième siège à Bétail, c'est par là, et puis c'est toute cette région du Quercy qui se trouve au nord de la Dordogne. Et ça correspond, ces deux Tornès, si vous voulez, ça correspond à peu près au noyau dur de la vicomté, à ce que la vicomté possédait dès l'an 1000. Ensuite, les vicomtes de Turenne se sont étendus un petit peu partout. D'une part, ils ont acheté des terres en Quercy, comme par exemple la vicairie de Brassac, ou la vicomté de Brassac, autour de Montvalent. Ils ont acheté aussi Saint-Céré, où ils se sont fait donner par le comte d'Auvergne. Ils se sont fait donner par les seigneurs de Castelnau, en épousant une fille de Castelnau, toute cette région qui est proche de Beaulieu, voyez. Et enfin, ils ont conquis la Saint-Fri sur l'abbaye d'Aurillac, qui n'a pas été capable de défendre cette région, et qui donc a laissé les Biscontins s'y établir. D'autre part, côté Limousin, ils ont acheté seulement au XIVe siècle, c'est-à-dire juste avant la guerre de Cent Ans, toute la région du Sac, de Saint-Hilaire-Pérou jusqu'à Chaméra, et donc ils ont encerclé Brive. D'autre part, ils étaient aussi co-seigneurs de Brive, avec les seigneurs de Malemort. Bon, ça veut dire que cette vicairie, vous voyez, cette vicomté, pardon, elle part d'un noyau dur, et puis ensuite elle s'étend sans perte de territoire, sauf évidemment en 1251, quand on a partagé la vicomté en deux et qu'on a donné le morceau du Périgord aux seigneurs d'Auridel et de Pons. Mais cette partie-là a été rachetée pratiquement au XVIe siècle. Alors, ce que je voulais vous montrer, et ce qu'il faudra que j'essaye surtout de vous démontrer, c'est que, au temps des Romains, le centre s'est puis dissolu. Ensuite, il y a un glissement vers Casillac. À Casillac, vers 800, il y a des comtes de Quercy qui fondent l'abbaye de Beaulieu et qui ont des biens dans toute cette région, ces comtes de Quercy à Casillac et Saint-Radac. Et puis enfin, le dernier glissement, c'est sur Turenne. Voilà donc pour ce que je vais essayer de vous expliquer. Et nous allons commencer rapidement par les Romains. Alors, il est évident que cette bataille de 51 avant Jésus-Christ, qui est la dernière des batailles livrées par les Romains aux Gaulois, elle a suscité beaucoup d'intérêt. Et tout le monde s'est demandé où était Uxello du Nord. Alors, il y a eu, évidemment, du fait que Luther, qui était le chef de cette révolte contre les Romains, était un cadurque, c'est-à-dire un habitant du Quercy, il y a eu, évidemment, recherche dans le Quercy. Ensuite, vers 1930, une deuxième hypothèse a été que Uxellodunum se trouvait à Uzerche, en Corrèze, et donc que Luther et puis ses clients, si on peut dire, étaient en fait des Corréziens. Une troisième hypothèse dans les années 70 a été que ces révoltés contre les Romains étaient dans le Cantal, et on les a situés donc un petit peu au sud du Cantal. Ensuite, et peut-être certains d'entre vous s'en rappellent, M. Montzamir, il y a 2 ans, au moment de l'Assemblée Générale, nous avait proposé cette tribu ou ce groupe de Gaulois autour de Tulle, avec également la Saintrie, et aussi une partie du Cantal. Ça faisait une sorte de bande que nous verrons tout à l'heure. Et pour finir, une hypothèse qui est actuellement admise, en tout cas par les commissions des sites, etc., c'est plutôt le puits dissolu, tout simplement. Alors, je reviens donc à la première hypothèse, le Quercy. Alors, le Quercy, les Quercinois, ils ont beaucoup de choix. Ils pensent que la plupart, disons une bonne, plus d'une moitié, pensent que le puits dissolu, c'est le Cadenac. Ensuite, comme il y a des sites qui ressemblent à la description de César, c'est-à-dire un site entouré d'une rivière avec un oppidum, il pense à Luzèche, ou il pense à Mursins, ou même de temps en temps il pense à Cahors, qui évidemment est dans une boucle de rivière, mais qui n'est pas très bien protégé, fortifié. En somme, beaucoup de sites revendiquent l'honneur d'être en Quercy le puits dissolu. Alors il faut reprendre un peu le texte de César. César explique que c'est un site qui est fortifié par la nature, c'est-à-dire qui est sur un hauteur, qui est entouré par une rivière, et il explique que les gens qui l'habitent, on appelle ça des oppidani, il explique que les gens qui l'habitent sont des clients, du cadurque Luther. Alors ça veut dire que c'est pas vraiment des Quercinois, puisque ce sont des clients seulement, pas des Quercinois. Il faut donc essayer, non seulement de chercher en Quercy, mais il faut essayer de chercher aussi un peu ailleurs. D'autre part, le puits dissolu a été choisi par Napoléon III, la suite de fouilles, variée, assez importante, a été choisi par Napoléon III dans son histoire de César et de la guerre des Gaules, comme le site du puits dissolu, du Uxellodunum. Alors, lorsque Napoléon III a été renversé par la guerre de 70, les archéologues, les historiens ont commencé à trouver que ces hypothèses à lui n'étaient pas bonnes. Si vous voulez, ces hypothèses, ça symbolisait l'Empire. Et donc, ils se sont mis à chercher ailleurs, le plus possible, des sites, non seulement pour Uxellodunum, mais aussi pour Gergovie, mais aussi pour Alésia. Et chaque fois, évidemment, ils en ont trouvé. Si bien qu'il y a eu des disputes mémorables sur des sites de bataille, parce qu'on était capable de les voir un peu partout. Et nous allons prendre l'exemple, donc, l'exemple très étrange de Monsieur Marc et de l'abbé Lejeune. Alors, nous sommes, disons, vers 1925-1930. Le président de l'association historique de Tulle, qui s'appelle les Lettres, Sciences et Arts de Tulle, qui sont nos jumeaux, si on peut dire, puisqu'ils ont mis en même temps que nous, notre société. Ce président, donc, c'est Bernard Marc, qui est un professeur d'histoire. Et il est ami avec un abbé, l'abbé Lejeune, qui est un archéologue et qui est curé d'Uzerche. Et tous les deux, ils vont donc essayer de prouver, alors non seulement que c'est Uzerche qui est le site du puits dissolu, qui est le site d'Uxellodunum, vous voyez, non seulement donc le fait que c'est Uzerche qui est le lieu de la dernière bataille des Romains et des Gaulois, mais ils vont aussi essayer de trouver une deuxième chose. Cette deuxième chose, c'est le nom des clients de Lucter. Dans César, leur nom n'est pas donné. Il est évident que César, ça n'intéressait pas. Il n'a pas essayé de savoir quelle était la mini-tribu qui était autour de cet Uxellodon. D'autant plus qu'après, bon, il va les liquider. En revanche, dans la liste des peuples qu'il donne, il cite entre les Lémobis, c'est-à-dire les Limousins, et puis les Cadurques, c'est-à-dire les Carcinois, et puis aussi les Rutènes, c'est-à-dire les gens de Rodez, voilà, il cite un groupe de gens qui participent aux premières batailles contre lui, mais qui ne réapparaissent pas ensuite. Et ces gens-là, on les appelle des Hélotètes. Alors, Bernard Marc va faire le lien entre les clients de Lucter et ces Hélotètes. Il va dire que c'est donc le même peuple. Et puis, il va carrément leur attribuer toute la Corrèze. Alors, pourquoi toute la Corrèze? Eh bien, parce que lui, il était de Tulle. Il avait envie quand même de montrer que sa petite capitale était importante. Et surtout que Tintignac, il connaissait Tintignac, qui n'est pas très loin de Tulle, était le temple sacré des Hélotètes. Autrement dit, ça se tenait. La seule chose qui ne se tenait pas dans ce discours, c'est qu'évidemment, Uzerche, c'est quand même en Limousin. Or, les Lémovis, dans la bagarre entre les clients de Lucter et puis les Romains, eh bien, il se trouve que les Lémovis, c'était des collabos. C'est-à-dire qu'ils étaient tous très copains avec César. Un de leurs chefs avait été tué à la bataille d'Alésia et ils avaient compris. Ils avaient compris que ce n'était pas la peine de s'attaquer aux Romains et ils avaient pris le parti des Romains. D'ailleurs, les Romains les récompenseront en créant la ville de Limoges et en leur donnant, vous allez voir, pas mal de territoires. Donc, si vous voulez, la faille dans le raisonnement de M. Marc, c'est que Uzerche, c'est vraiment très près de Limoges. Et comment ça se fait que Lucter, fuyant donc Poitiers, à l'époque il partait de Poitiers, il descendait en hâte vers son pays d'origine, le Quercy, eh bien pourquoi il se serait arrêté si vite? Pourquoi il se serait arrêté à Uzerche, si près des Lémovis? Alors les Lémovis n'étaient pas encore à Limoges, mais ils étaient dans le coin, vous voyez. Ça, c'est la faille un peu de ce système. Mais il a donné des idées aux gens de la Corrèze. Les gens de la Corrèze ont accepté l'idée que finalement, ils ne dépendaient pas de Limoges, qu'ils étaient très indépendants. Après tout, pourquoi pas? Et surtout, ça permettait d'expliquer les sites du type Tintignac, donc, près de Tulle, voilà où est Tintignac, qui aurait été tout au centre, vous voyez, d'un magnifique territoire appartenant à ces Hélotètes. Donc, voilà comment on décrit cette situation en 1930 dans le bulletin de Tulle. Et comme il était président de cette société, il a pu se permettre d'écrire beaucoup d'articles sur ce thème et en même temps de faire beaucoup de remarques tout à fait générales et très marrantes sur... les noms en Corrèze, des choses de ce genre. Enfin, c'était un peu un fantaisiste, M. Marc. Et nous passons alors maintenant à une théorie plus sérieuse, qui est celle du Cantal. Alors, c'est une théorie qui a été élaborée par des historiens très sérieux dans les années 70-80, donc il n'y a pas très longtemps quand même, et qui situe les Hélotètes, d'après leur nom, vous voyez, aux alentours de Carla, qui serait leur oppidum, et dans des lieux comme l'oppidum de Calvinet, ou comme la ville de Lyotades. Et ils font un rapprochement, alors moi je ne suis pas spécialiste de toponymie, mais ils font un rapprochement entre Hélotète et Lyotades. Ils disent que ça a la même racine. Seulement, si vous voulez, le problème, c'est que ça ne peut pas être la bataille du Xenodunum. D'abord parce que Carla n'est pas entourée par de l'eau, c'est simplement une grosse forteresse. Ensuite, parce que pourquoi Lucter se serait amusé à aller se fourrer en Auvergne, chez ses ennemis, parce qu'à ce moment-là, les Auvergnats, ils commençaient à être du côté de César aussi, chez ses ennemis, ou alors à proximité du Rouergue, où les Rutènes étaient tout à fait calmes, hein, ils ne bougeaient pas du tout. Pourquoi ils seraient venus se fourrer dans un endroit pareil? Autrement dit, pour les gens de cette théorie, c'est bien les Éleutètes qui habitent ici, mais ce n'est pas eux qui ont été les derniers à se battre contre César. Donc ce ne sont pas les clients de Lucter. Voilà leur avis à eux. Simplement, ils disparaissent des textes après la conquête romaine. Alors on va dire tout simplement parce que c'est vraiment tout petit. Ce territoire, c'est vraiment, vraiment rien, quoi. On ne peut pas appeler ça une véritable région. C'est une toute petite région. Et nous passons donc au dernier exemple, c'est celui de M. Manzanir. Alors, M. Manzanir est donc un chercheur actuel qui est très intéressé par tout ce qui concerne le puits, enfin, la région de Tulle, est un Tignac. Et lui, alors, c'est uniquement sur la toponymie, c'est-à-dire sur les noms de lieux, qu'il se base. Alors, il prend des mots qui dérivent du mot rand, R-A-N-D, rand. Ça veut dire frontière en celte. Autrement dit, ça va donner des noms comme Aigurande, ça va donner des noms comme Durand. Alors là, il y a beaucoup de Durand, hein. S'ils sont tous des gens de la frontière, voilà, il y en a beaucoup. Ça va donner des noms comme Torondel. Mais là, ça se discute parce qu'un toron, c'est un petit ruisseau. Donc un torondel, ça devrait être un encore plus petit ruisseau. Mais enfin, bon, il les classe aussi dans cette catégorie. Et puis, des noms comme Gironde, Aigurand, Guirande, simplement, etc. Ou encore Margeride, vous voyez. Alors, ça lui a permis de faire une sorte de carte où il pointe tous ces noms, qui sont des noms Durand, Torondel et compagnie, et voilà ce que ça donne comme carte. Ça donne donc bien la zone que les gens du Rouergue ou du Cantal appelaient les Éleutètes. Donc il va les appeler des Éleutètes, et il va les faire aller de l'autre côté de la Dordogne. Ils vont donc traverser la Dordogne et se retrouver à Tulle. Et même à Tintignac, qui va devenir alors un temple de frontière. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi il a voulu ajouter cette petite zone qui se trouve actuellement en Corrèze, avec la Saint-Trie, donc d'une part ici, et puis la région de Tulle. Pourquoi il a voulu l'ajouter au Cantal? Alors son raisonnement est assez simple. Il dit que c'est parce que Tintignac est un temple de frontière avec les Lévobis, donc que les Lévobis entourent cette zone, et donc que les Éleutètes se sont installés dans ce temple pour se protéger ou limiter leurs frontières. Et puis la deuxième raison qui est un petit peu plus étrange, c'est que ça correspond, tout ça, à l'ancien diocèse de Tulle, c'est-à-dire le diocèse qui existait ou qui a été créé par les papes en 1317, au XIVe siècle. Évidemment, c'était des papes qui voulaient favoriser la baie de Tulle. Et pour favoriser la baie de Tulle, ils avaient fabriqué un petit diocèse, comme ils avaient fabriqué le petit diocèse de Sarlat en Périgord, comme ils avaient fabriqué tout un tas de petits diocèses dans le sud, dans la région de Toulouse, pour éviter que Toulouse devienne une trop grosse puissance. Alors, évidemment, ça paraît bizarre. Pourquoi ressusciter un très ancien peuple, les Éleutètes, qui aurait disparu, et puis lui donner un diocèse? Mais enfin, c'est sa théorie, on la respecte, et ça vous donne donc un tout autre aspect du paysage que l'aspect de Bernard Marc. Bernard Marc, c'est toute la Corrèze, pour les Hébetettes, et M. Montsamir, c'est la Corrèze plus le Cantal, une partie du Cantal. Voilà donc nos possibilités. Oui. Et nous arrivons quand même au puits dissolu. Alors, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le puits dissolu, il ne correspond pas exactement à la description de César. C'est-à-dire qu'il n'est pas entouré de tous côtés par une rivière. Il est bordé par la Dordogne et il est longé par la Tourmente. Et d'autre part, il est également longé en partie par un affluent de la Dordogne qui passe quasiment à son pied. Ça fait qu'il n'est, c'est un puits qui n'est en fait bordé que de trois côtés par des rivières. Mais en revanche, sa situation, elle est quand même remarquable. Pour commencer, il est au bord de la Dordogne. Et ses clients de Luctère, ils sont évidemment pas carrément en Quercy, c'est-à-dire de l'autre côté de la Dordogne. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Luctère, qui revenait de Poitiers en hâte, avec 4000 hommes, et qui était talonné par Caninus, un des lieutenants de César, qui avait avec lui probablement 4 fois plus de soldats, eh bien, il était pressé. Il est évident que ce qu'il voulait peut-être au départ, c'est rejoindre Cahors, sa capitale. Mais il n'a peut-être pas eu le temps. C'est-à-dire que les Romains le suivaient de vraiment très près. Alors il est passé, comme tout le monde, par Uzerche, d'accord, ensuite par Brive, ensuite il est descendu, et il a trouvé ses clients, donc, qui étaient au puits dissolu. Ses clients n'avaient évidemment jamais vu un Romain. Ils se sont laissés persuader de s'enfermer dans leur forteresse, et puis de l'aider, donc, pour résister le plus longtemps possible. Le but, c'était pas de résister pour le plaisir de résister, le but, c'était de faire de la guérilla. C'est-à-dire, à partir de ce point fort, aller enquiquiner et piller tout autour les garnisons romaines qui voudraient s'installer, ou même les clients, les amis des Romains. C'était ça le but. Et le but, c'était d'attendre 50. Il suffisait d'attendre 6 mois. César cessait à ce moment-là d'être proconsul en Gaule. Il était donc renvoyé à Rome et les Gaulois pouvaient respirer. Mais voilà, il y avait 6 mois possibles. Et donc, Lucterius a tenté le coup. Il a donc demandé à ses clients de s'enfermer dans l'oppidum, ce qui est particulièrement dangereux. Et pendant ce temps-là, il est allé chercher des vivres tout autour pour ravitailler le puits. Alors, on va dire, où est-ce qu'il peut aller se ravitailler ? Eh bien, il faut qu'il se ravitaille dans une région qui appartient à ses clients. Parce qu'il est évident que si c'est une région qui appartient aux Lémovis, ils ne vont pas le laisser faire. Si c'est une région qui appartient aux Cadurques, ce n'est pas sûr qu'ils acceptent, parce que ça voudrait dire se mettre contre les Romains. Il va donc fourager ou récupérer de la moisson dans la région des clients. Alors, qu'est-ce que c'est que cette région ? La logique voudrait que ce soit cette région-là. Voilà. C'est-à-dire l'actuelle Quercy, de l'autre côté de la Dordogne, pas au sud de la Dordogne, mais au nord de la Dordogne, et qui est devenue plus tard la partie quercinoise de la vicomté de Turenne. Ce serait la logique. Mais est-ce que c'est une frontière logique ? Alors là, nous la verrons plus tard lorsque nous parlerons de la forêt. Est-ce que cette frontière, elle est logique ? Elle n'a rien de logique. Elle traverse des causses, mais n'importe comment. Ensuite, elle oblique bizarrement vers le sud. Ensuite, elle traverse un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Valérac. Elle le longe. Elle passe de l'autre côté de la Tourmente et elle grimpe sur les collines qui se trouve en Limousin. Elle coupe pratiquement cette frontière tous les ruisseaux. C'est-à-dire que tous les ruisseaux qui descendent ici appartiennent dans le nord au Limousin et dans le sud au Quercinois. Ça n'a pas de sens. S'il y a une logique, c'est pratiquement la limite de partage des eaux. Et la limite de partage des eaux, elle passe au-dessus de Touraine. Elle passe ici. Voilà. Elle passe ici. Vous voyez ? Alors, on peut admettre, mais on n'est pas obligé, on peut admettre.